Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et vous êtes encore nombreux ce matin à souhaiter réagir au coup d'envoi de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la modification de la constitution Gabon pour pallier l'absence du président Ali Bongo. Voilà un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. La qualification historique de la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations, la décision de Didier Drogba de mettre un terme à sa carrière. On a reçu quelques commentaires et même des réactions sur la page Facebook. Il y a par exemple cet auditeur qui s'appelle Ouruna, qui est en République démocratique du Congo et qui se dit déjà nostalgique en apprenant la retraite de l'éléphant le plus dangereux d'Afrique. Nous sommes des fans de Drogba vivant à Lubumbashi, dans la commune de Kamalondo. Nous organisons ce samedi à 16h une fête digne de ce nom pour rendre hommage à la prestigieuse carrière de l'international ivoirien. Et puis d'autres auditeurs souhaiteront évidemment réagir à cette décision. Donc retraite pour Didier Drogba. Mais d'abord, je vous le disais, juste avant le journal de François Mazet, vous êtes nombreux à souhaiter réagir, à souhaiter témoigner après la décision du gouvernement français d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants non européens. Je vous donne un chiffre. Actuellement, un étudiant en licence paye 170 €. 170 € À partir de la rentrée prochaine, il devra débourser 2 770 €, 16 fois plus. Évidemment, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Hervé, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Strasbourg, vous êtes en deuxième année de double master, c'est bien ça, en théologie et sciences politiques. Vous êtes centrafricain.
Et, oui, je suis centrafricain.
Et vous êtes inquiet après l'annonce du Premier ministre, Édouard Philippe.
Très inquiet, Juan. Pourquoi ? Parce que cette mesure, elle a eu un effet de coup de tonnerre pour moi. Parce que pour les doubles masters, je paye en principe 480 € par an. Alors si le gouvernement décide d'améliorer les conditions d'études des étudiants français, c'est tout à fait normal, c'est son devoir. Mais le faire au détriment des étudiants, qui plus est extra-européens, c'est quand même exagéré. Passer de 243 € des frais d'inscription en année de master à 3 770 et juste pour l'année prochaine, c'est pour moi inadmissible. Pourquoi ? Parce que les études, il n'y a pas que la scolarité à payer, il y a beaucoup qui va avec, notamment les charges. L'étudiant a le loyer à payer, la nourriture et des documents. Et comment peut-on apprécier le fait que pour un même contenu de formation, l'extra-européen paye plus de 10 fois ce que paye le français. Pour moi, c'est pas normal, c'est exagéré.
C'est exagéré, dites-vous. En même temps, tout à l'heure, Florent Bonaventure de Campus France, qui est donc l'agence de promotion de l'enseignement supérieur à l'étranger, disait « Le gouvernement entend multiplier par 3 le nombre de bourses. On est à 7000 bourses pour les étudiants étrangers par an. L'objectif étant de passer à 21 000, a-t-il dit tout à l'heure. » Ça ne vous rassure pas ?
À 21 000 pour 500 000 étudiants, selon les mesures prises par le gouvernement. Mmh. Que valent 21 000 bourses pour 500 000 étudiants ? Ouais. C'est pas significatif. Ouais.
Officiellement, il s'agit d'attirer plus d'étudiants étrangers, des étudiants plus brillants, plus méritants. Vous avez l'impression finalement qu'il y a une volonté d'écarter les étudiants les plus pauvres ?
C'est une politique élitiste pour écarter justement les étudiants dont les parents n'ont pas les moyens pour soutenir leurs études. Je prends mon cas, je suis centrafricain, ressortissant d'un pays qui est en guerre, avec un système éducatif plus que critique. Aujourd'hui, je me vois en France pour continuer mes études, avoir un diplôme et puis me jeter sur le marché de l'emploi. On me dit, bon voilà, désormais les études vont être chères, que vais-je faire ? C'est pousser des gens comme nous autres à décrocher. Et ce serait une honte, d'abord pour moi, parce que j'ai un défi à relever, et pour ma famille, s'il faut élargir, même pour mon pays, les bourses qui vont être données. Mais ça sera à qui ? Ça sera à qui ? Parce que la plupart des étudiants étrangers qui sont là, je prends particulièrement le cas des Centrafricains qui sont boursiers, mais ces bourses ne tombent presque jamais, Juan.
Ah bon ?
Jamais.
Le gouvernement français ne verse pas en temps et en heure les bourses aux étudiants centrafricains, en l'occurrence.
Hervé. Ah, le gouvernement français. Je parle de gouvernement centrafricain.
Ah, le gouvernement centrafricain. Ah oui, très bien. C'est pour ça que
oui,
je disais.
Parce qu'on ne peut pas toujours compter que sur les bourses françaises parce qu'il y a des critères.
Hervé, vous restez en ligne. Je voudrais qu'un autre étudiant puisse s'exprimer. Il s'appelle Yacouba. Il nous appelle de Toulon. Bonjour Yacouba.
Bonjour Juan.
Doctorant ivoirien en droit à l'université de Toulon.
Tout à fait.
Vous partagez les inquiétudes d'Hervé?
Parfaitement. C'est vrai que ma situation est peut-être un peu plus reluisante que celle de Hervé, puisque moi je suis doctorant contractuel, c'est-à-dire que je suis embauché par mon université et que je touche donc un salaire qui me permet de me prendre en charge. Cela dit, les effets de cette décision, je vais moi aussi les sentir et je le sais. Ce qui fait que je devine bien aisément la situation que peut vivre Hervé et l'écrasante majorité des étudiants étrangers en France. Mmh. Il faut savoir, Juan, que lorsque vous vous présentez à l'ambassade, au consulat de France dans votre pays et que vous souhaitez obtenir un visa pour venir poursuivre vos études, on vous dit ceci: il vous faut des revenus s'élevant à 7000 euros par an. Alors, c'est ce qui a été la base pour plusieurs étudiants les années précédentes pour venir poursuivre leurs études ici. Et une fois ici, on leur dit, ben non, en fait, les 7000 euros, ça va vous permettre juste de vous inscrire pour 2 années de master, pour le logement, pour la nourriture, et ben débrouillez-vous. C'est une trahison, en quelque sorte, pour tous ces étudiants-là.
Vous parlez de trahison. Hervé, vous diriez la même chose, vous, à Strasbourg?
Tout à fait, je dis la même chose. La même chose, pourquoi? Parce que même pour avoir le visa chez moi, c'était cette condition qui avait été exigée. Ouais. Au niveau du consulat, tu peux beau leur dire que bon, tu es détenteur d'une bourse, ils te diront que c'est pas leur problème, c'est pas les instructions qu'ils ont eues ici. Ouais. Il faut au minimum une somme bloquée de 7000 euros pour avoir droit à un visa.
Ouais. Sans compter que c'est un parcours du combattant, hein, pour essayer d'obtenir une place dans une université en France, pour faire acte de candidature, il faut déjà verser des frais de dossier, des frais qui, quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas retenu, si on vous refuse une admission, ne vous seront jamais remboursés. Donc, dès le début, vous êtes obligé de mettre la main au portefeuille pour faire acte de candidature. Hervé et Yacouba, restez en ligne. Un autre étudiant, Cartel, mais lui, il est à Brazzaville. Bonjour, Cartel.
Bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous êtes étudiant en licence 3 de droit, c'est bien ça, à l'université de Brazzaville. Ça a été pour vous la douche froide en apprenant la décision du gouvernement, puisque votre projet, c'était de venir en France, étudier, finir vos études.
Oui, tout justement, parce que, vous le savez, c'est comme ça. Mes prédécesseurs ont su le dire, que plein d'étudiants optent pour Campus France pour se retrouver en France et poursuivre leurs études. Donc, moi, j'ai suivi Monsieur Bonaventure, chargé de communication des services Campus France, et j'ai compris, en quelque sorte, qu'il était en train de s'adresser directement à moi. Pourquoi ? Parce que, je vous explique mon cas, qui est différent de mes prédécesseurs. Je suis titulaire d'un bac S, donc un bac scientifique, mais je désire plutôt de poursuivre des études en France en communication, parce que mon pays ne me donne pas cette opportunité. Et j'aurais donc en la France un pays qui m'offre l'opportunité de poursuivre des études de communication, donc selon mes convictions, car là-bas, il n'y a pas de question de série pour faire une formation.
Ouais. Donc ça, pour aller
là,
peu,
avec cette augmentation...
Cartel, vous allez devoir payer, donc si vous entrez en licence l'année prochaine, 2770 euros, si vous avez une place justement à l'université. Ça, en avez-vous les moyens, Cartel?
Non, parce que je suis issu d'une famille modeste ici en Afrique. Et ça, je crois que le gouvernement français est conscient de ce fait, parce qu'en Afrique, ici, on vit des situations économiques assez difficiles. Et le SMIC tourne autour de 100 euros. Comment voulez-vous qu'un parent qui reçoit 100 euros ou 200 euros par mois comme salaire puisse financer des études qui frôlent les 4000 euros, puisqu'il faut compter le logement, il faut compter le transport, il faut compter le manger, et puis... Et c'est cette faramineuse somme des frais de scolarité.
Ouais.
Vous voyez, c'est une très très grande déception.
Cartel, merci d'avoir...
Oui, pardon.
Vous
permettez ?
Allez-y, je vous permets, évidemment.
Oui, vous me permettez de finir en disant qu'il serait important que les services Campus France contactent le gouvernement français afin de pouvoir essayer de relativiser, essayer de revoir ce montant. On ne demande pas au gouvernement français d'abolir carrément cette réforme, mais de trouver un prix qui est plutôt raisonnable.
Ouais. Quand vous dites que Campus France doit contacter le gouvernement français, Campus France est une, à moins que je dise une énormité, mais c'est une agence gouvernementale, une agence qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Donc voilà, Florent Bonaventure qui s'exprimait tout à l'heure, forcément, il défend la position prise par le gouvernement et défendue il y a quelques jours par le Premier ministre Édouard Philippe. On aura l'occasion, vu le nombre d'appels que nous recevons, de prolonger la discussion lundi. Lundi, nous allons consacrer vraiment la deuxième partie à ce sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Vous, étudiants étrangers déjà en France, et des étudiants comme Cartel à l'instant, qui nous appelait de Brazzaville, et qui voyaient tout d'un coup vos rêves disparaître, puisque vous n'avez pas les moyens de pouvoir financer donc les nouveaux frais, l'augmentation des frais dans les universités françaises. On continue à nous appeler, et lundi, c'est promis, on vous redonnera la parole. On continue à donner la parole à un étudiant. Cette fois-ci, c'est un étudiant de Kinshasa, sur un tout autre sujet, puisque l'université de Kinshasa est le théâtre, depuis quelques jours, de manifestations réprimées par la police. Deux étudiants ont été tués lors de ces rassemblements. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous êtes étudiant donc à l'UNIKIN et vous souhaitiez témoigner de la tension qui règne sur place à l'UNIKIN.
Ah oui, bien sûr. Bonjour à tous les auditeurs de RFI, je suis étudiant à l'Université de Kinshasa. Tout est parti le lundi dernier, les étudiants ont initié une marche en soutien aux professeurs qui étaient allés en grève réclamant leurs primes. Alors cette marche pacifique des étudiants a été suivie de la répression brutale de la police. Un de nos camarades a été victime de balles réelles tirées par la police. Il a été ramené aux cliniques universitaires. Il a succombé 48 heures après de ses blessures. Et c'est ce qui a levé le courroux des étudiants. Ils se sont fâchés. Les étudiants ont pris d'assaut tous les campus. La police a été débarquée de nouveau le mercredi. Les étudiants réclamaient justice. La police a été débarquée. Et la police a fait encore pour une énième fois une autre victime, les camarades de Rodrigue. Lui aussi, il a été tué à bout portant. Il était mort de suite de ses blessures, toujours aux cliniques universitaires.
Ouais. Vous avez peut-être entendu la ministre des Droits humains sur RFI. Elle a évoqué une bavure policière. Elle souhaite un procès. Le procès de deux policiers a d'ailleurs commencé. Donc c'est un procès, vous voyez, la justice va très très vite. Et la ministre a dit « Je veux un procès exemplaire pour servir de leçon à d'autres policiers ».
Oui, nous l'avions entendu sur vos antennes, mais sauf que personnellement, elle ne s'est pas investie dans la scène ici au milieu local pour peut-être faire un tweet ou bien présenter ses condoléances aux étudiants. Et d'où la colère des étudiants qui, jusqu'aux heures actuelles, à la minute où je vous parle, ils sont en train de se rassembler, en train de réclamer d'abord justice, les obsèques, l'indemnisation des familles des victimes et aussi la levée de la grève.
La levée de la grève des enseignants, ils sont en grève depuis le début du mois d'octobre, ce qui signifie que les cours, l'année académique n'a toujours pas commencé à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup Jacques de ce témoignage très intéressant, bon courage à vous et bonne chance pour cette année universitaire qui, on l'espère évidemment, démarre le plus vite possible. Des réactions sur le Togo, on vous en parlait également cette semaine, le Togo où la coalition des 14 partis de l'opposition menace de boycotter les élections législatives du 20 décembre. La tension monte et les évêques s'inquiètent. Les évêques ont rédigé un communiqué. Bonjour Paul Vincent.
Bonjour.
Vous êtes à Lomé et vous comprenez-vous la position et l'inquiétude des évêques togolais face à l'organisation de ces élections prévues dans un peu moins d'un mois, le 20 décembre?
Parfaitement. Ouais. Le temps qui reste pour la tenue de ces élections est vraiment assez inquiétant parce que il y a aucun consensus tout autour. Hein. Et vu les expériences passées, les élections passées, franchement, moi je me dis là, ce n'est pas la date qui importe, hein, c'est les conditions. Pour que les élections soient vraiment crédibles à cette étape.
Oui, mais alors, Paul Vincent, pour que les choses soient claires, vous semblez donner raison à l'opposition, vous dites que rien n'est prêt pour organiser des élections. De quoi parlez-vous exactement?
Je ne peux pas donner raison à l'opposition. D'ailleurs, je ne suis pas de l'opposition du parti au pouvoir, je suis togolais.
D'accord.
Je me dis, aujourd'hui, la CEDEAO est venue au secours du Togo et on a mis en place un projet de réforme. Je crois qu'après 8 mois de négociations, d'abord se pencher sur ce projet de réforme-là et trouver un consensus autour. Et maintenant, après, on pourra aller à des élections. Mais dans ces conditions, la date du 20 décembre, je crois que je m'aligne derrière les évêques pour sonner là, pour crier vraiment qu'il y a inquiétude.
Oui, les évêques qui disent, hein, je les cite, « Nous redoutons le pire si rien n'est fait à temps pour désamorcer la situation et apaiser le climat. » Les évêques qui critiquent la marche forcée du gouvernement vers ces élections. Dominique, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes du même avis que Paul Vincent ou pas?
Je crois que les évêques ont fait l'alerte, mais je crois qu'ils doivent aller plus loin. Un peu plus loin dans leur analyse parce que, vous savez, ça fait bientôt 30 ans que nous avons une opposition au Togo qui dit non à tout. Toutes les propositions, dès qu'elles viennent du parti au pouvoir et du gouvernement, c'est qu'il faut refuser. Je vous rappelle, Monsieur Juan, que cette semaine même, une séance parlementaire avait été convoquée pour que les parlementaires ayant la souveraineté du peuple puissent aller discuter et la coalition des 14 partis politiques a encore une fois claqué la porte. Et ils sortent de là et disent qu'il faut que ce soit un Sénégalais qui vienne au Togo nous dire comment écrire notre constitution. Moi, j'en ai ras-le-bol de cette situation dans laquelle, de manière permanente, nous foulons notre pays au pied, aucun respect, aucune fierté pour nous-mêmes, et à chaque fois on a l'impression qu'on ne peut pas se parler et que c'est d'autres personnes qui doivent toujours venir nous faire des choses.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, vous parlez de réforme de la... Excusez-moi, je vous ai écouté attentivement, Dominique. Vous parlez de la réforme de la Constitution. C'est finalement ça le principal point de blocage entre le pouvoir et l'opposition. C'est la révision de la Constitution. C'est mettre en place 2 mandats maximum successifs pour un chef d'État. Une élection présidentielle à 2 tours. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, mais là où ça bloque, c'est que le pouvoir souhaite que le président sortant puisse être de nouveau candidat en 2020. Et l'opposition n'a pas la même analyse. C'est finalement ça qui bloque, non?
Oui, mais Monsieur Juan, le vrai problème, le béaba du droit, le petit principe, c'est que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Si le débat, il doit avoir, je crois que ça doit faire un débat, il faut en discuter. Mais de manière permanente, comment comprendre que des gens qui ont eu la, qui sont des mandataires du peuple togolais, oui, puissent refuser d'aller à l'hémicycle discuter et qu'ils ramènent toujours le débat dans la rue? Des débats sur des sujets sérieux de la nation et qu'on refuse de se parler.
Alors,
Attendez,
je voudrais, vous dites, il faut qu'on se parle. Bah, je voudrais que vous puissiez parler avec Paul Vincent. Paul Vincent. Vous avez écouté votre compatriote. Il a raison ou il a tort de dire il y en a marre à chaque fois. Alors, je reprends sa formule. Un Sénégalais vienne, mais enfin qu'un ressortissant, un diplomate africain soit obligé de venir au Togo à Lomé pour essayer de mettre l'opposition et le pouvoir face à face et qu'il puisse dialoguer.
Je voudrais rappeler à mon frère togolais que c'est le pouvoir togolais qui a demandé l'appui de la CEDEAO pour le dialogue, dès qu'il y a eu crise. Alors c'est dans la lignée de ce dialogue-là que M. Alioune Badar Fall est venu en tant qu'expert constitutionnel,
oui,
pour pouvoir consulter toutes les différentes positions pour pondre ce projet de réforme. Et aujourd'hui, quand vous lisez le projet de réforme qu'il a pondu, il a essayé de faire en sorte que de prendre le juste milieu.
Oui. Bon, en tout cas, vous avez chacun une interprétation sur l'intervention de la CEDEAO dans la crise togolaise. Là aussi, c'est un dossier qu'on suivra évidemment dans les prochains jours. Avant de vous quitter, de vous souhaiter un bon week-end, je vous rappelle que mardi prochain, Bénédicte Savoie et Felwine Sarr seront à mes côtés. Ces deux universitaires ont été mandatés par le président Emmanuel Macron pour réfléchir.